commencé. L'émission a commencé.
Debout.
Énorme. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances.
Le football, il a changé.
Morning Tour. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Tour, il est 7h16, il est l'heure de la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette heure d'émission en ce vendredi 14 novembre. Ce matin, nous débuterons par les informations de la semaine présentées par Luc Agot, puis Marie-Camille Chauvet nous parlera des conditions des détenus en France qui se dégradent d'année en année. Place ensuite à la revue de presse présentée ce matin par David Alias. Nous retrouverons notre horizon international. En Asie, Léo Segura reviendra sur la vague de violence actuelle en Chine. En Afrique, David Alias évoquera la possibilité de reconnaissance du Somaliland par la communauté internationale. Et enfin, le continent américain, où Théo Lohr nous parlera d'un attentat suicide à Brasilia. Après une pause musicale, Luc Agot représentera un second flash d'information. Nous écouterons un reportage signé Jules Frécon, qui est allé à la rencontre des derniers cyclistes autorisés à circuler rue nationale de Tours. Victoire Renard de Winter nous expliquera les enjeux de la COP29 qui se déroule actuellement à Bakou en Azerbaïdjan. Et pour la chronique culture, Angelina reviendra sur le nouveau film de Boris Lofkin. Un peu de sport avec la chronique sur le Tour de France par Mathis Maudet. Léo Segura conclura cette émission en nous parlant de l'annonce des nominations des Grammys. Vous êtes bien sur Good Morning Tour, 99.5 FM. Il est 7h18, tout de suite les informations.
À la une de l'actualité ce matin, le match France-Israël avec moins de 30 places remplies, le Stade de France sonnait creux hier pour un résultat tout aussi mitigé, match nul. Mais ce n'est pas pour son enjeu sportif que le match France-Israël était attendu hier, mais plus pour son défi sécuritaire. Des incidents entre les supporters israéliens du Maccabi et de l'Ajax d'Amsterdam s'étaient produits dans la capitale néerlandaise le 8 novembre dernier. Alors, 4000 policiers et gendarmes étaient mobilisés par le ministère de l'Intérieur avec l'appui de la BRI, mais ils n'ont pas eu beaucoup de travail hier soir puisque le match n'a pas déplacé les foules et qu'aucun incident majeur n'a été déclaré. Alors, un point maintenant au Proche-Orient, avec des bombardements sur le sud de Beyrouth qui se poursuivent pour la 4e journée consécutive, l'armée israélienne appelle les habitants à quitter les lieux où le Hezbollah a établi son fief. Pour rappel, l'État hébreu a lancé une offensive au sol depuis septembre dernier avec des incursions sur le sud du territoire libanais. Le milieu agricole en grogne depuis que le projet d'accord sur le Mercosur a été dévoilé il y a 2 jours par l'Union européenne. Les agriculteurs ne décolèrent pas. En effet, la FNSEA a d'ores et déjà lancé un appel à la mobilisation lundi prochain. Ce traité entre l'UE et les pays sud-américains prévoit notamment un quota d'importation de viande bovine latino-américaine de 100 000 tonnes par an. Les agriculteurs dénoncent un non-sens écologique et une concurrence déloyale puisque les agriculteurs sud-américains ne sont pas soumis aux mêmes normes de production que les Européens. Michel Barnier, le Premier ministre, a immédiatement expliqué que la France n'acceptera pas le traité dans les conditions actuelles. Alors, en agriculture toujours, mais à Tours cette fois, c'est l'ouverture de Ferme Expo, le salon régional de l'agriculture et de la gastronomie, jusqu'à dimanche prochain au parc des expositions de Tours. Avec 44 000 visiteurs attendus, 1000 animaux exposés, près de 330 stands et des concours, cette 18e édition se présente comme un événement incontournable de la vie locale et de nos terroirs. De nombreuses animations sont prévues sur les 3 jours pour les petits et les plus grands, avec en prime de nombreuses dégustations. Pour y assister, ce sera 7 € l'entrée et ce sera gratuit pour les moins de 12 ans.
Merci Luc Agot, il est 7h20, l'heure de la chronique société de Marie-Camille Chauvet qui nous parle de la surpopulation dans les prisons françaises. Quand il s'agit des conditions de détention, la France est un très très mauvais élève. Les détenus sont trop nombreux et accueillis dans des conditions dégradées. Marie-Camille Chauvet, racontez-nous ce qu'il se passe derrière les grilles des prisons.
La France enferme mais n'a pas les capacités de le faire. C'est le constat que Didier Migaud, l'actuel ministre de la Justice, a été contraint de faire dimanche dernier dans un entretien accordé à France Inter, France Télévisions et au Monde. Car l'objectif lancé par le gouvernement Macron dès 2017 n'aboutira pas. Sobrement intitulé « Plan 15 000 places de prison », ce projet devait permettre un meilleur accueil des détenus, une préparation idéale à la sortie, mais aussi un environnement de travail amélioré pour le personnel pénitentiaire en augmentant les capacités d'accueil des établissements. Sur le site du ministère de la Justice, on peut toujours lire que ce projet est, je cite, « le plus ambitieux depuis 30 ans ».
Mais malgré cette qualification, le projet ne va finalement pas aboutir ?
Il n'aboutira que partiellement. Les 15 000 places de prison devaient être créées sur 10 ans, soit jusqu'en 2027. En 7 ans, seules 4 500 places ont été livrées. Le garde des Sceaux reconnaît lui-même un retard conséquent et estime déjà que les 5 500 places restantes ne seront pas créées en 3 petites années.
Mais comment est-ce qu'on explique ce retard ? Est-ce qu'il y a un manque de financement ?
Non, la réponse n'est pas à chercher du côté de la trésorerie selon Didier Migaud. Ce serait davantage les élus locaux qui s'opposent à voir se construire sur leur territoire des projets d'établissements pénitentiaires. Pas étonnant que ces élus soient réticents. Certains habitants proches de centres de détention se plaignent déjà de nuisances, comme près de la prison de la santé à Paris. Les riverains disent être importunés par du bruit et des scènes de violence aux abords de l'établissement et à toute heure. Ils se sont organisés en une association qui s'appelle Riverains de la Santé et qui demande aux autorités une surveillance accrue à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur de la prison. Ces nuisances sont notamment le fruit d'une surpopulation carcérale, selon la mairie du 14e arrondissement de Paris, où se situe l'établissement.
Donc les élus se méfient des nuisances qui sont le fait d'une surpopulation carcérale, mais le projet 15 000 places entend justement endiguer cette surpopulation.
Oui, on est vraiment sur un cas où le serpent se mord la queue. Et concernant la surpopulation carcérale, il est nécessaire d'agir puisque le nombre de détenus a atteint un nouveau record. Au 1er octobre 2024, 79 631 personnes étaient incarcérées en France pour un peu plus de 62 000 places disponibles. Le taux d'occupation des prisons françaises s'élève à 127,9%. Il atteint même 150% dans les maisons d'arrêt au sein desquelles les détenus sont en attente de jugement. Dans de nombreuses prisons, des détenus dorment sur des matelas à même le sol. Et en plus du manque de place, c'est aussi la vétusté des établissements qui est mise en cause. L'ONG Notre Affaire à Tous a d'ailleurs révélé dans une étude publiée cet été que la population carcérale était plus exposée aux risques environnementaux comme la canicule, les inondations ou encore les incendies. La double peine pour les 79 631 détenus que compte la France.
Merci Marie-Camille Chauvet pour cet éclairage. Vous écoutez toujours Good Morning Tour. Il est 7h23, l'heure de revenir sur certains faits marquants de la semaine vus par diverses rédactions. C'est la revue de presse présentée par David Alias.
Comme chaque année, les personnalités politiques et militaires françaises se sont réunies place de l'Étoile à Paris sous l'Arc de Triomphe pour les commémorations du 11 novembre, la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette année, Emmanuel Macron était accompagné du Premier ministre du Royaume-Uni, Keir Starmer, un 11 novembre sous le signe de l'amitié franco-britannique, insistait Ouest France ce lundi, alors qu'est célébré cette année le 120e anniversaire de l'entente entre la France et le Royaume-Uni. Le premier quotidien régional français mettait l'accent dans ses colonnes sur la relation entre les deux dirigeants qui ont déposé ensemble une gerbe de fleurs devant les statues de Georges Clemenceau et de Winston Churchill. Libération aussi insistait sur ce rapprochement franco-britannique en titrant « Starmer en France, le rapprochement franco-britannique en marche » et revient sur le caractère exceptionnel de la venue dans l'Hexagone du premier ministre anglais, le premier dirigeant britannique à participer à la cérémonie en France depuis Winston Churchill. Deux jours plus tard, mercredi 13 novembre, l'Irak a annoncé vouloir abaisser l'âge légal du consentement sexuel de 18 à 9 ans, un amendement porté par la coalition de partis musulmans chiites conservateurs qui priverait également les femmes du droit de divorce, de la garde des enfants après le divorce ainsi que de l'héritage. Un projet sans date, pour le moment, mais qui permettrait aux hommes, s'ils venaient à être adoptés, d'épouser de très jeunes filles en toute légalité. Une pratique déjà courante dans le pays, mais illégale, insiste le Figaro, qui révèle également que ces projets de modification de la loi avaient été proposés quelques années plus tôt, en 2014 d'abord, puis en 2017, mais avaient été abandonnés à la suite de contestations de femmes irakiennes. Si ce projet de loi est adopté, l'Irak deviendrait le pire pays du monde pour les droits des femmes et des enfants, selon la journaliste irakienne Niaz Abdullah. Doula, pour qui cette loi revêt même un caractère pédophile. C'est ce qu'elle souligne auprès de France Info, qui rappelle que pour être adoptée officiellement, cette loi doit être approuvée par les parlementaires sunnites, à qui les partis conservateurs chiites proposent, en échange de l'adoption de cette mesure, la libération de prisonniers sunnites de Daesh. Cette semaine a également été marquée par le grand départ du Vendée Globe. Les 40 skippers de l'édition 2024 se sont élancés des Sables d'Olonne, dimanche 10 novembre dernier, comme le veut la tradition pour un tour du monde en solitaire. Ouest France s'est concentré ce dimanche sur sur la météo du jour, avec une mer plate, moins de 10 nœuds de vent et aucune averse à l'horizon. Sur une présentation exhaustive des 40 participants, avec parmi eux le tenant du titre, Yannick Bestaven, venu remettre son titre en jeu. Et le télégramme, lui, insistait sur la foule présente dès 5h du matin pour assister au départ sur des pontons bondés devant une marée humaine, comme le soulignait aussi France Info, avant de revenir quelques lignes plus tard sur l'émotion des skippers, pour certains à la fois heureux et tristes de prendre le large pour plus de 2 mois et demi d'aventure loin de leurs proches. Enfin, cette semaine du 11 novembre était aussi celle d'une rencontre de football éminemment politique au Stade de France, hier entre la France et Israël, qui s'est soldée sur un nul 0-0. Une rencontre marquée par la présence en tribune du président de la République Emmanuel Macron, de François Hollande ou encore de Nicolas Sarkozy, le tout dans un contexte tendu entre les deux pays, avec le conflit israélo-palestinien, mais aussi depuis les dernières déclarations d'Emmanuel Macron au sujet d'Israël. Pour le journaliste et éditorialiste de l'équipe Vincent Duluc, ce retour des Bleus au Stade de France avec un triste nul, dans un décor tendu et pesant, n'est pas vraiment celui qu'on attendait, notamment à cause du dispositif de sécurité conséquent mis en place pour assurer la bonne tenue du match, avec plus de 4000 forces de l'ordre présentes autour et à l'intérieur du stade, comme le rappelait RMC. Une rencontre qui ne faisait pas non plus l'unanimité au sein même des groupes du supporter, révélait France Info hier, en mettant le curseur sur le faible remplissage du Stade de France, qui n'a accueilli que 13 000 supporters, soit plus de 6 fois moins que la jauge maximale du stade.
Merci David Alias pour cette présentation de l'actualité de la semaine. Il est 7h27 sur Good Morning Tour. On se retrouve juste après une petite coupure musicale. On écoute Warm the Trees. C'était Warm the Trees. Il est 7h30 et vous écoutez toujours la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours sur Radio Campus. Tout de suite, les informations de Lucago. Pas du tout. On va sur la page internationale, excusez-moi.
Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée.
China's a one-party state.
Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation.
I don't think anyone would call it a democracy.
Une nouvelle législation sur le mariage homosexuel a été promulguée en Thaïlande. Le roi Rama X a donné son accord pour la promulgation d'une loi sur le mariage des personnes du même sexe. Cette nouvelle législation ne mentionne plus des hommes, des femmes, des maris ou des épouses, mais désigne à présent des individus et des partenaires de mariage. Après le Népal et Taïwan, la Thaïlande est le troisième pays du continent asiatique à autoriser le mariage homosexuel. À Bombay, la plus grande ville d'Asie risque de devenir un quartier d'affaires. C'est la menace qui plane sur le quartier de Dharavi, le bidonville, où vit près d'un million d'Indiens. Ils pourraient être expulsés après que le magnat Otam Adani ait présenté son projet de transformation. Ce quartier cumule près de 350 000 habitants au kilomètre carré. On reste en Asie, il est 7h32. Vous êtes toujours à l'écoute de Good Morning Tour, c'est l'heure de la chronique Asie dans la voix de Léo Segura.
Le Japon a été frappé par un tremblement de terre et un raz-de-marée.
China's a one-party state.
Il n'y a pas de multipartisme avec Taïwan parce que ce n'est pas un État-nation.
I don't think anyone would call it a democracy.
L'image de la sécurité de la Chine est ébranlée. Le 11 novembre, une attaque meurtrière a eu lieu dans le sud du pays, à Zhuhai, où un homme a foncé dans une foule causant la mort de 35 personnes. Comment expliquer ces violences dans un pays pourtant réputé pour son contrôle strict ? Léo Segura nous détaille le sujet.
Oui, une attaque qui a profondément choqué le pays. Lundi, à Zhuhai, près d'un stade, un homme de 62 ans fonce sur des passants, tuant 35 personnes et en blessant 43. Selon la police, il aurait agi par frustration liée à un différend familial. Un geste tragique et isolé, mais aussi le plus meurtrier en Chine depuis près d'une décennie. Malgré un système de surveillance poussé et le contrôle strict des armes, ce type d'acte se multiplie, mettant à l'épreuve l'image de stabilité que la Chine s'efforce de maintenir.
Alors que les tensions économiques et sociales s'accumulent, la société semble manquer de lieux d'expression pour libérer ses frustrations. Mais quelles sont les conséquences donc, de cette tragédie qu'elle pourrait avoir sur la politique de sécurité en Chine ?
En réponse, le gouvernement a renforcé les contrôles sur les individus à risque, notamment sur celles en difficulté financière ou sociale. Des mesures de surveillance qui visent à identifier et surveiller de près ceux qui pourraient présenter un danger. Mais selon certains experts, un contrôle accru ne suffit pas toujours à apaiser les tensions dans une société en proie aux frustrations économiques et aux conflits personnel. Un drame, en somme, qui met en lumière les limites de la sécurité stricte en Chine. Derrière l'image de contrôle absolu, les tensions persistent et, faute de moyens d'expression, elles risquent d'exploser, et parfois de la manière la plus dramatique.
L'attaque de Zhuhai souligne la difficulté de maintenir une société stable uniquement par le contrôle. Ce drame nous interroge sur les limites du modèle de sécurité chinois et sur les défis auxquels le pays fait face pour apaiser une population en proie à des frustrations croissantes. En Afrique, maintenant, c'est la première fois qu'un ambassadeur de France foulait le Sahara occidental au Maroc. Sur place du 11 au 13 novembre, la visite de Christophe Lecourtier fait suite à la reconnaissance par Emmanuel Macron de la souveraineté du Maroc sur ce territoire peuplé de 600 000 habitants. Aucune annonce particulière lors de ce voyage qui était pourtant très attendu. 1,5 degré, c'est déjà trop pour nous. D'une seule voix, 54 pays africains ont endossé une position commune lors de la COP29 qui a actuellement lieu à Bakou en Azerbaïdjan. Les leaders africains demandent 1,3 milliard de dollars chaque année jusqu'à 2030 pour atteindre les objectifs. Cet argent permet d'opérer la transition vers les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique. On reste en Afrique où l'élection de Donald Trump en tant que président des États-Unis pourrait permettre un nouveau pays de voir le jour à l'échelle internationale. David Alias, de quel pays s'agit-il ?
Eh bien Lou, il s'agit du Somaliland, petit pays quatre fois moins grand que la France, situé à l'est du continent africain, un état non reconnu par la communauté internationale, au contraire de la Somalie, avec qui il était fusionné jusqu'en 1960, date de son indépendance. Alors, le 6 novembre dernier, le président somalilandais, Musbi Abdi, en poste depuis 2017 et en lice pour une réélection, s'est empressé de féliciter Donald Trump sur les réseaux sociaux pour sa victoire dans l'élection américaine. Je cite « J'attends avec impatience de collaborer avec vous en vue du renforcement du partenariat entre le Somaliland et les États-Unis ».
Mais que peut espérer le Somaliland en se rapprochant des États-Unis ?
Eh bien, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche pourrait insuffler un espoir dans les rangs somalilandais, celui d'un combat vieux de 3 décennies mené par la République autoproclamée pour obtenir une reconnaissance de la communauté internationale, un sujet dont il est question dans le fameux projet 2025 de Donald Trump. Et depuis mercredi, 13 novembre, les 5 millions d'habitants du Somaliland sont appelés aux urnes pour choisir l'un des 3 partis autorisés dans le pays, parmi lesquels figure celui de l'actuel président qui espère briguer un second mandat pour concrétiser ce projet de rapprochement avec les États-Unis. Un rapprochement vu d'un bon œil par tous les officiels somalilandais, qu'ils soient issus du parti au pouvoir ou de l'opposition, selon Brendan Novell, doctorant spécialiste en sciences politiques à l'Université de Montréal.
Mais pourquoi le Somaliland intéresse-t-il autant les États-Unis ?
Eh bien, avec le Somaliland, les États-Unis souhaitent se faire un nouvel allié au bord de la mer Rouge pour contrer l'influence chinoise qui s'y étend de plus en plus depuis la mise en place de leur base militaire à Djibouti en 2017. Le petit pays d'Afrique de l'Est deviendrait ainsi un lieu stratégique de la politique internationale américaine, d'autant plus que le pays entretient déjà des liens étroits avec l'Arabie Saoudite, autre allié des États-Unis. Le Somaliland souhaite donc s'affirmer comme un acteur stable d'une corne de l'Afrique de plus en plus en proie à des tensions pour devenir le 194e État membre de l'ONU. Un accord sera prononcé en janvier, permettra ou non la reconnaissance de la souveraineté du Somaliland en échange de la location pour 50 ans à l'Éthiopie de 20 km de côte du petit pays de l'Est africain. Un accord qui ne fait pas consensus puisque la Somalie invoque une violation de sa souveraineté.
Merci David Alias pour cette chronique. Il est 7h37 sur Radio Campus Tours. On file sur le continent américain. Après avoir été un soutien de la campagne présidentielle de Donald Trump, Elon Musk a été nommé à la tête d'un ministère, celui de l'efficacité gouvernementale, pour recruter le directeur de Tesla et du réseau social X. Veut des personnes motivées, prêtes à travailler 80 heures par semaine. Il va partager ce poste avec un autre homme d'affaires, Vivek Ramaswamy. Après avoir promis une vague de régularisation des sans-papiers, le gouvernement canadien revient sur sa décision. Cette promesse concernant des centaines de milliers de migrants, quand le pays compte entre 100 000 et 1 million de personnes en situation irrégulière. Aucun plan ne sera présenté avant les prochaines élections, selon le ministre de l'Immigration, Mark Miller. Mercredi dernier, un homme a commis un attentat suicide à la bombe devant les plus hautes instances brésiliennes à Brasilia. Une nouvelle attaque contre la démocratie dans un pays déjà touché par des atteintes d'une plus grande ampleur en janvier 2023. Théo Leur, vous nous en dites plus ?
Des manifestants d'extrême droite qui se lancent à l'assaut des bâtiments qui incarnent les institutions démocratiques du pays. Une atmosphère de chaos qui marque durablement la population. Tout cela après l'élection démocratique d'un nouveau président, moins radical que le précédent. Non, je ne poursuis pas cette semaine, en tout cas, ma chronique habituelle sur les États-Unis avec un flashback sur les événements qui ont frappé le Capitole américain en janvier 2021. La scène que je vous ai décrite s'est passée au Brésil en janvier 2023, après l'élection de Lula face à Jair Bolsonaro.
Et donc plus d'un an après, la scène s'est donc répétée avec cet attentat suicide au tribunal suprême fédéral mercredi.
En effet, comme les Américains, les Brésiliens ont été durablement marqués par l'attaque de janvier 2023, symbole d'un coup direct porté à leur démocratie. Alors qu'en mercredi soir, des déflagrations retentissent sur la place des trois pouvoirs, la même saccagée par les partisans d'extrême droite après l'élection de Lula, les mauvais souvenirs reviennent. L'assaillant, Francisco Wanderley Luis, a fait exploser un véhicule puis une ceinture d'explosifs en essayant d'entrer dans le tribunal suprême fédéral, en face du Parlement et du palais présidentiel. Heureusement, aucun blessé n'est à déploré. En 2020, il s'est présenté aux élections municipales pour le parti de l'ancien président Jair Bolsonaro. Si les enquêteurs doivent encore déterminer ses motivations exactes, son action semble isolée. Le directeur général de la police fédérale a cependant souligné que l'attentat à suicide était planifié, même si Francisco Wanderley Luis avait des convictions politiques extrêmes, voire paranoïaques, comme l'indique Bruno Meyerfeld, correspondant à Sao Paulo pour le journal Le Monde. L'ancien président Jair Bolsonaro a réagi, soulignant qu'il regrette et rejette tout acte de violence. Mais, je cite, « bien qu'il s'agisse d'un événement isolé et apparemment causé par des troubles de la santé mentale de la personne, qui malheureusement a fini par décéder, c'est un événement qui devrait nous amener à réfléchir », a-t-il ajouté.
Cet événement inquiétant fait aussi planer des doutes sur la sécurité du pays, alors que le G20 doit se tenir à Rio de Janeiro à partir du 18 novembre.
Au-delà de la menace sur la démocratie brésilienne, c'est effectivement la sécurité des chefs, différents chefs d'État attendus au G20 qui est en question. La réaction du gouvernement ne s'est pas fait attendre. La sécurité des bâtiments officiels a été renforcée avec l'armée et une enquête de la police fédérale a immédiatement été ouverte. Toujours sur une note internationale, les militants d'extrême droite brésiliens acquis à Jair Bolsonaro espéraient aussi beaucoup de l'élection de Donald Trump. Une loi d'amnistie des émeutiers de janvier 2023 est discutée par le Parlement et vise à ne pas juger les participants à l'insurrection contre les institutions. Les États-Unis ont encore beaucoup d'influence politique sur les pays de la région, mais cette nouvelle attaque, même isolée, d'un militant d'extrême droite semble faire s'envoler toute possibilité de pardon pour les partisans de Bolsonaro.
Merci Théo Leur, il est 7h41 sur Good Morning Tour. Pour conclure cette page internationale, écoutons Billy Idol avec Eyes Without a Face.
It's gone from your eyes. I better realize.
C'était Billy Idol avec Eyes Without a Face. Vous écoutez la matinale des étudiants de l'école publique de journalisme de Tours. Tout de suite, le second flash d'information de Luc Ago.
Le Rassemblement National en position délicate. 5 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité requis par le parquet contre Marine Le Pen et les 24 autres prévenus dans l'affaire des assistants parlementaires. Une amende de 300 000 euros a aussi été requise contre la chef du Rassemblement National et 4 millions pour le parti. Alors, la leader a rapidement dénoncé ces réquisitions en appuyant sur le volet démocratique. Je cite « Je pense que la volonté du parquet est de priver les Français de la capacité de voter pour ce qu'ils souhaitent et de ruiner le parti ». En cas d'application, Marine Le Pen risque la disqualification pour les prochaines élections présidentielles. Une COP29 sur un fond de tension diplomatique entre la France et l'Azerbaïdjan. Il y a deux jours, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a dénoncé dans un discours l'histoire coloniale de la France et son action en Nouvelle-Calédonie. La ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a alors rejeté ses propos et annulé son déplacement au sommet. Des tensions diplomatiques qui durent depuis la reprise de l'enclave du Haut-Karabakh à l'Arménie en septembre 2023 par l'Azerbaïdjan, mais vous en saurez plus avec Victoire bientôt. Alors, jetons maintenant un coup d'œil sous la couette des Français, des pratiques sexuelles plus diverses et un nombre croissant de partenaires. C'est en tout cas ce que révèle une vaste enquête de l'INSERM à NRS. Avec plus de 35 000 personnes interrogées, la dernière étude d'une telle ampleur sur ce sujet remonte à 2006. Il est 7h47 et allons-y franchement, la masturbation, la fellation et la pénétration anale sont en hausse, tout comme le nombre de partenaires sexuels, mais la fréquence de ces rapports en couple diminue. L'une des raisons de cette diminution, l'augmentation de l'autonomie des femmes et une plus grande importance accordée au consentement et au désir féminin. Nous retournons à Tours cette fois puisque dès aujourd'hui, il ne sera plus possible d'emprunter la rue nationale à vélo en journée entre 10h et 20h, exception faite le dimanche et les jours fériés. Alors pourquoi un tel revirement de la mairie qui prévoit pourtant de créer 110 km de pistes cyclables dans la métropole d'ici à 2026 ? Eh bien, les conflits d'usage. La rue nationale est une rue très piétonne où passe aussi le tramway. Cette interdiction a donc pour but d'améliorer la sécurité des passants dans cette artère très commerçante de la ville, mais vous en saurez plus tout de suite avec Jules Frécon.
Merci Luc Ago pour ce résumé des informations de la semaine. À Tours, à présent, depuis aujourd'hui, la circulation des vélos et des trottinettes est interdite en semaine dans la rue nationale, en plein centre-ville de Tours. Hier, Jules Frécon est allé questionner les cyclistes encore présents sur cet axe très emprunté.
Ce sont des raisons de sécurité qui ont convaincu la municipalité d'interdire les vélos et les trottinettes de circuler rue nationale. Du lundi au samedi, de 10h à 20h, les cyclistes devront donc contourner cet axe. La ville les encourage à relier le nord et le sud de Tours via la rue Bouffon, à l'est de la rue nationale ou via la rue Marceau, à l'ouest. Les cyclistes croisés hier étaient assez compréhensifs de la mesure.
Aucun problème. Il y a deux axes parallèles, un par là et un de l'autre côté, rue de Buffon et rue Marceau. Donc voilà, on peut circuler sur l'axe nord-sud sans problème. Bon, c'est vrai que là, certains jours, c'est un peu serré rue nationale. Il y a beaucoup de piétons, donc c'est pas du tout gênant de passer ailleurs pour moi.
Je suis plutôt contente parce que souvent c'était un souci entre piétons et cyclistes et je trouvais ça assez dangereux pour les deux. Donc je trouve que c'est bien d'avoir interdit après avoir fait en sorte que les vélos puissent circuler sur les deux rues parallèles. Donc voilà, moi je trouve ça bien.
Ça peut se comprendre parce qu'il y en a certains des fois qui se percutent, qui se heurtent. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que quand on veut aller par exemple à Tournord, bah forcément ça nous fait faire un détour. Donc des fois il y a de la circulation, il y a des feux. Donc,
du coup tu vas faire comment toi ?
Bah je vais faire le détour comme tout le monde, hein. On n'a pas trop le choix j'ai envie de dire.
Pour ceux qui ne feront pas le tour, pas de verbalisation dans l'immédiat. Interrogé par France Bleu Touraine en début de mois, Christophe Boulanger, l'élu en charge des mobilités à la ville, indiquait qu'une période pédagogique serait appliquée pendant quelques semaines.
Un reportage signé Jules Frécon. On parle environnement à présent avec Victoire Renard de Winter. Bonjour Victoire.
Bonjour Lou.
Quatrième jour de la COP29 en Azerbaïdjan, près de 200 pays se réunissent pour décider des actions concrètes contre le réchauffement climatique. L'année dernière, durant la COP28 à Dubaï, il s'est conclu la sortie progressive des énergies fossiles. Cette année, qu'est-ce qui se joue entre les nations ?
Alors, c'est l'enjeu de la finance. Alors, les pays doivent s'entendre sur un nouvel objectif de financement collectif. Donc, concrètement, les pays développés fournissent de l'argent aux pays en développement pour les aider à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et s'adapter au réchauffement climatique. Ce financement du nord vers le sud n'est pas une question de charité, mais plus de responsabilité historique. Les pays développés, les plus grands pollueurs, financent l'aide climatique pour les pays qui subissent les pires impacts, alors qu'ils en sont les moins responsables.
Tu viens de nous dire qu'il s'agit d'un nouvel objectif de financement, mais quelles sont les différences avec le précédent ?
Eh bien, en 2009, les pays développés s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an pour les aider, pour aider les pays en développement. Cet objectif devait être atteint en 2020, mais il n'a été concrétisé qu'en 2022, ce qui a provoqué une défiance envers les pays bénéficiaires. Cette année, les pays revoient l'accord. Les besoins financiers sont aujourd'hui bien plus élevés. On parle de milliers de milliards de dollars chaque année pour faire face au réchauffement climatique. Mais ces sommes ne sont pas envisageables à fournir. Autre enjeu, définir qui doit payer. Donc, dans l'accord initial, les contributeurs étaient des pays développés des années 90, mais le contexte a changé. Les pays comme la Chine ou les pays du Golfe sont aujourd'hui des puissances économiques et d'importants émetteurs de gaz à effet de serre. Les discussions doivent définir s'ils doivent contribuer eux aussi au financement global. Enfin, il y a la question du type de financement. Donc, l'accord de 2009 reposait à 70% sur des prêts, donc ce qui aggrave la dette des pays bénéficiaires. Un rééquilibrage entre prêts et dons pourrait être envisagé.
Alors cette année, la France n'a aucune représentation politique présente à Bakou. Est-ce que cela a un impact sur les négociations ?
Eh bien non, bien que Macron ne se déplace pas, ses négociateurs, eux, seront présents. On écoute Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, qui nous annonce son absence pour des raisons politiques entre la France et l'Azerbaïdjan.
Je ne me rendrai pas à Bakou la semaine prochaine. Je veux également vous assurer que les équipes de négociation françaises ne ménageront pas leur effort avec mon appui à distance et en lien avec nos partenaires européens pour protéger la planète et nos populations. Nous continuerons à plaider pour le plus haut niveau d'ambition dans la mise en œuvre de l'accord de Paris dont nous sommes les gardiens 10 ans après son obtention.
L'avenir des accords de Paris est un enjeu important suite à la suite de la réélection de Donald Trump. Il s'était retiré des accords en 2017 et souhaite de nouveau retirer les États-Unis. Lundi, le président azerbaïdjanais de la 29e conférence climat de l'ONU l'a également rappelé.
COP29 is a moment of truth for the Paris Agreement.
La COP29 est un moment de vérité pour l'accord de Paris, ce sont ses mots, et ce rendez-vous est central pour la dynamique internationale pour lutter contre le réchauffement climatique.
Merci Victoire Renard de Winter. Il est 7h54 sur Good Morning Tour. Tout de suite, la chronique culture d'Angelina Richard. Bonjour Angelina.
Bonjour Lou.
Vous l'avez peut-être vu passer au Festival de Cannes ou dans votre cinéma, l'histoire de Souleymane cumule près de 400 000 entrées au box-office. Mais alors Angelina, quel sujet de société et de politique soulève ce film ?
L'histoire de Souleymane, c'est l'histoire d'un jeune Guinéen qui, pour aider sa maman malade, arrive en France et tente d'obtenir une demande d'asile. Cette histoire, c'est l'histoire de plus de 600 000 personnes sans papiers en France en 2021, selon Gérard Darmanin. Dans le film, Souleymane a trois impératifs. Le premier, gagner assez d'argent pour manger. Pour ce faire, il est livreur de repas à vélo. Mais comment se créer un compte quand on est sans papiers ? Eh bien, c'est là qu'on découvre tout le business qu'il y a derrière, puisqu'il loue un compte de livreur à un escroc. Cet homme récupère presque un tiers de tout ce qu'il touche, et ce n'est pas comme s'il touchait beaucoup par jour. Ensuite, il doit s'assurer d'avoir un toit pour dormir. Et là encore, c'est compliqué. Il faut appeler les centres très tôt et espérer qu'il reste de la place, sinon c'est la rue. Pour aller dans ces centres, il y a un bus à 22h. Mais comment faire pour réussir à l'avoir quand il faut traverser la ville et à côté travailler d'arrache-pied pour essayer de gagner sa vie ? Pour finir, Souleymane doit aussi préparer son entretien pour sa demande d'asile. Là encore, il y a un business derrière. Puisque le monsieur qui l'aide pour cet entretien lui demande beaucoup d'argent. Beaucoup trop d'argent, pour en échange des papiers nécessaires pour la demande d'asile, ainsi qu'un discours, une histoire à réciter. Un discours qui n'est pas celui de Souleymane. mais c'est au fond pour être sûr qu'il puisse avoir sa demande. Attention au spoil, mais lors de cet entretien, la femme qui le reçoit lui fait remarquer « Monsieur, ce discours, je l'ai entendu toute la semaine. Quelle est votre histoire ?» Ça soulève la question de légitimité des raisons du départ. À la fin de l'entretien, il finit par dire la réelle raison qui l'a poussé à partir, qui ne sont pas pour des raisons politiques, mais pour sa maman, qui est gravement malade, ou en Guinée, il n'avait pas de quoi s'occuper d'elle. Mais pourquoi une situation serait-elle plus valable qu'une autre ? Quand on arrive en France, en situation irrégulière, c'est-à-dire sans autorisation, donc sans visa, c'est illégal. Il faut obtenir une carte de séjour, donc soit un titre de séjour, visa, droit d'asile. Et une personne qui demande l'asile, c'est une personne qui demande une protection internationale dans le pays d'accueil. En 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a accordé la protection de la France qu'à 3 demandeurs d'asile sur 10. Cette histoire, c'est aussi un peu celle de l'acteur qui joue Souleyman, Abour Sangaré. Il est arrivé en France en 2017 à l'âge de 16 ans. Alors qu'il n'avait jamais fait d'études avant, il obtient un bac pro mécanique poids lourd à Amiens.
Donc si je comprends bien, il est très difficile d'obtenir l'asile en France, mais il est aussi très compliqué d'arriver en France.
Oui, il a dû traverser le Mali, l'Algérie, la Libye, puis tenter de traverser la Méditerranée en Zodiac pour l'Italie. Il se fait emprisonner après sa première tentative puisqu'il n'avait plus d'argent. Et son périple aurait pu finir d'une autre façon, une façon plus tragique, comme le naufrage d'un bateau de migrants le 28 septembre qui avait fait au moins 9 morts et 48 disparus au large des Canaries. Car ces traversées sont inhumaines, ces personnes risquent leur vie pour essayer de sauver la leur et celle de leurs proches. Je finirai avec Abou Sangari qui explique qu'à travers ce film, je cite, « les gens savent désormais ce que j'ai traversé, ce que vivent les sans-papiers. Quand tu n'as pas de papier, tu n'as pas de vie, c'est tout. Pour vivre en France, il faut avoir un titre de séjour. Alors, quand tu n'en as pas, tu n'es pas reconnu. Tu es invisible. Comme si tu vivais dans l'obscurité. Les gens ne te voient pas. » Si dans la réalité, Abou Sangari a effectué le 10 octobre sa 4e demande de régularisation dans le film, à la fin, on ne sait pas si la demande d'asile a été acceptée. Mais je pense que c'est pour ne pas axer justement le film sur savoir si oui ou non ça a été accepté, mais plus pour cette histoire, cette réalité.
Très bien, merci beaucoup. Si vous voulez regarder l'histoire de Souleyman au cinéma, le film est actuellement en salle au studio. Merci beaucoup Angelina Richard. Il est 7h58 sur Good Morning Tour et tout de suite Nasty de Tanish.
Nasty. Is somebody gonna match my freak? Is somebody gonna match my freak? Is somebody gonna match my nasty? I got stamina, they say I'm an athlete. Is somebody gonna match my freak? Need somebody with a good technique. Is somebody gonna match my nasty? Pillow talking, got my throat raspy. If you keep up with me, I'll keep on coming back. If you do it too good, I'm gonna get a dash. Cause it feels like heaven when it hurts so bad. Baby, put it on me. I like it just like that, just like that.
I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl,
just
nasty.
Like that.
I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty.
Make a scene, party's lame, no vibe, we can leave. Shotgun, my thighs on a seat. I ain't got nothing underneath. Looks like you better spend the night. Looks like I'm about to change your life. Wife type, he's staying for a week, so I might just let him pay the lease. If you keep up with me, I'll keep on coming back. If you do it too good, I'm gonna get a dash. Cause it feels like heaven when it hurts. Baby, put it on me. I like it just like that, just like that.
I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl,
just like that.
I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty girl, nasty. I've been a nasty, nasty, nasty.
If you keep up with me, I'll keep on coming back. If you do it too good, I'm gonna get attached. Cause it feels like heaven when it hurts so bad. Baby, put it on me. I like it just like that.
Il est 8h, tout pile, nous accueillons Mathis Maudet en studio pour nous parler du Tour de France féminin. L'été, c'est la plage, les soirées barbecue, mais surtout du vélo. Ce 29 octobre, la directrice du Tour de France femme, Marion Rousse, a dévoilé le parcours du Tour 2025. Son homologue masculin, Christian Prudhomme, a fait de même pour la 112e édition masculine, qui sera exclusivement tracée en France l'an prochain. Mathis Maudet, une équipe de France peut-elle remporter la grande boucle ?
Eh bien Lou, c'est tout l'enjeu de cette édition 2025. Faire déjouer les pronostics, mettre fin à une dizaine longue de 40 ans. Aucune française n'a gagné le classement général du Tour de France femmes depuis son retour en 2022. Chez les hommes, il faut remonter à l'édition 1985 et à la victoire de Bernard Hinault sous les couleurs de l'équipe Laviclaire pour voir une équipe française s'imposer. À ce jour, c'est également la dernière victoire d'un coureur français sur la grande boucle. Lors de l'édition 2025, il existe une vraie chance de victoire. Car oui, ce 28 octobre, l'équipe féminine FDJ Suez a annoncé dans un communiqué l'arrivée d'une recrue de taille pour la saison à venir. La formation française s'offre les services de Demi Vollering jusqu'en 2025 avec un objectif bien précis, remporter le Tour de France. Si vous ne connaissez pas la néerlandaise, c'est l'une des meilleures concurrentes du peloton. L'expérience sur le Tour, elle l'a. La coureuse de 27 ans a déjà gagné à plusieurs reprises sur le Tour. En 2023, elle a gagné le classement général en s'octroyant une victoire d'étape. Ambitieuse, elle l'est aussi. Cette année, alors qu'elle était en position idéale pour décrocher une seconde couronne, elle a chuté, perdu le maillot jaune, avant de jouer son va-tout dans la dernière étape pour échouer à seulement 4 petites secondes de la polonaise Nevia Doma au général.
Et le parcours de l'édition 2025 peut-il lui permettre de renouer avec la victoire ?
Cette année, le Tour de France féminin comporte 9 étapes, une première depuis son retour en 2022. En finissant à 3 reprises sur le podium du Tour, Demi Vollering fait d'office partie des prétendantes à la victoire finale. D'autant plus que le tracé est taillé pour elle. Le départ en Bretagne est piégeux. Les deux premières arrivées à Plumelec et Quimper offrent des parcours accidentés, propices à une course de mouvement. Mais la victoire finale se jouera surtout dans les Alpes, lors des trois dernières étapes de montagne, un terrain à son avantage. Dans son équipe, Demi Vollering pourra aussi compter sur des coureuses françaises de renom, Evita Music, qui a déjà battu sa nouvelle équipière sur une étape du Tour d'Espagne cette année, ou encore Juliette Labousse, championne de France en titre. Pour l'équipe française, l'objectif est donc clair, remporter la victoire finale, comme l'a dit Vollering en interview à l'équipe. Je cite, « Faire partie d'une équipe française au départ du Tour de France, c'est spécial, mais imaginer de le gagner avec une équipe française, ça serait encore plus spécial. »
Et est-ce qu'on peut espérer un scénario similaire chez les hommes ?
Chez les hommes, la tendance est vraiment différente puisque l'édition 2025 devrait à nouveau opposer Tadej Pogacar, vainqueur sortant, et Jonas Vingegaard, déjà deux fois lauréat de l'épreuve en 2022 et 2023. Les probabilités de voir un coureur français gagner, et encore plus une équipe française gagner sur la plus haute marche du podium à Paris est donc très mince. Côté français, on devrait donc viser les victoires d'étape, même si Guillaume Martin, David Gaudu et Lenny Martinez viseront certainement le général et un top 10. Donc 40 ans après la dernière victoire française, on garde espoir. Mais 2025 sera peut-être la bonne, on y croit en tout cas, on se donne rendez-vous l'été prochain.
Merci Mathis Maudet pour cet éclairage sur les nouvelles ambitions françaises sur le Tour. Notre émission touche à sa fin et c'est l'heure du billet d'humeur de Léo Segura. Bonjour Léo.
Bonjour Lou.
Aujourd'hui, vous aimeriez revenir sur ce coup de tonnerre qui a frappé les États-Unis et le monde entier la semaine dernière.
Oui Lou, et je ne pense pas être le seul à avoir été bouleversé par cette nouvelle tombée il y a quelques jours. Je parle bien entendu de la publication dénommée pour la prochaine cérémonie des Grammys.
Ah oui, ok, d'accord.
Alors, pour les quelques personnes qui ne sauraient pas ce que sont les Grammys, laissez-moi vous expliquer. Les Grammy Awards, c'est un événement qui, chaque année depuis 1959, récompense les meilleurs artistes de l'industrie musicale américaine. Tout cela est chapeauté par la Recording Academy, un organisme qui regroupe musiciens, producteurs ou encore ingénieurs du son américains. C'est eux qui à la fois soumettent les candidatures, nomment les artistes et les œuvres et votent pour désigner les lauréats.
Et donc vendredi dernier, les nommés ont été révélés.
Et oui, après des semaines de pronostics de toute la presse culturelle outre-Atlantique, les noms sont enfin sortis. On y retrouve des habitués comme Taylor Swift, Billie Eilish ou encore Beyoncé, Queen Bee qui a d'ailleurs battu le record de l'artiste la plus nommée avec 99 nominations au total. Il y a aussi des petits nouveaux, ou plutôt des petites nouvelles, comme la très queer Chappell Roan. L'ancienne comédienne Sabrina Carpenter. Night, oh, so. ou encore la star anglaise de l'hyperpop, Charlie XCX. Sage est beaucoup aimé par exemple, et pourtant cette révélation dénommée a mis quantité de personnes en colère, y compris moi.
Et pourquoi ?
Car de nombreux artistes qui ont marqué l'année 2024 sont complètement absents des listes malgré leur succès commercial ou critique. Quelques exemples, Ariana Grande avec son album Eternal Sunshine qui comprend les chansons Yes And et We Can Be Friends, snobé. Dua Lipa, ses tubes Houdini, Training Season, Illusion et une tournée mondiale complète en quelques secondes, snobé. Megan Thee Stallion et son album éponyme, acclamé par la presse, snobé. Katy Perry et son comeback avec l'album 143.
Snobé.
Bon, ça c'est plutôt cohérent.
Mais pourquoi il faut bien faire des choix pourtant ? Tout le monde ne pouvait pas être sélectionné.
C'est vrai, l'année 2024 a été très généreuse sur le plan musical, mais les choix de la Recording Academy reflètent un réel décalage avec les attentes du public. L'impact culturel de certains artistes n'est manifestement pas assez pris en compte. Rien de très surprenant lorsque l'on sait que certains labels et distributeurs ont une énorme influence sur les artistes nommés. S'ajoute à cela des campagnes médiatiques et publicitaires massives et donc très coûteuses qui défavorisent les plus petits artistes. Par exemple, la chanteuse Tina Chey, connue pour son tube viral Nasty, que vous avez pu écouter tout à l'heure, n'apparaît dans aucune des catégories de cette 67e édition. Et pour cause, l'américaine est indépendante, réduisant drastiquement ses chances. Alors ce matin, j'aimerais crier justice. Justice pour tous ces artistes qui nous ont fait vibrer et voyager cette année, mais qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils méritaient. Car rappelons-le, l'art, c'est avant tout des émotions et pas des chiffres.
Merci Léo Segura, ça fait du bien un peu de musique là. Les Grammys auront lieu le 2 février prochain à Los Angeles, il est 8h07. Sur Radio Campus Tour, c'est déjà la fin de cette émission. Je remercie toute l'équipe du jour, Léo Segura, Jules Frécon, Victoire Renard de Winter, Camille Amara Betati, Théo Leur, Mathis Maudet, Angelina Richard, Lucas Go et Marie-Camille Chauvet. Merci à Victoire qui a aussi assuré la technique. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle matinale, toujours sur 99.5 FM. Prenez soin de vous, agréable journée à toutes et à tous.